Bonjour. Est-ce qu'on est conditionné, je veux dire, a-t-on véritablement un libre arbitre ou est-on conditionné par notre éducation et par nos systèmes de valeurs
Bon, alors, il est certain que nous sommes conditionnés par non seulement notre éducation, le système de valeurs, mais notre nature qui nous est donnée. Un qui est une nature irascible, un qui est une nature envieuse, un qui aime les femmes, un qui aime les hommes. Tu as toutes sortes de bonhommes aujourd'hui sur Terre. Aussi au niveau génétique, on charrie avec nous un background héréditaire qui fait que dans une très grande mesure, nos choix sont complètement conditionnés. Mais, néanmoins, il y a libre arbitre. Preuve en est que la Torah ordonne. Dieu ordonne. Or, on ne peut ordonner que si la personne à qui on s'adresse a un choix. Fait. Je ne vais pas dire que quelqu'un fait si il n'a pas l'option de ne pas faire.
Mais disons que c'est pas du probable. On n'a pas autant de chances de le faire que de ne pas le faire.
Alors, j'y arrive, je vais t'expliquer le principe d'abord. D'après la Torah, il est clair qu'il y a libre arbitre. Comme il est marqué, Dieu a mis devant toi la vie et la mort, j'ai mis devant toi la vie et la mort, ou bahata tu choisiras la vie. Entre parenthèses, si c'est vraiment comme ça la vie et la mort, que je vois maintenant la vie, un sourire souriant, des cheveux au vent, il vient t'éclater, on est heureux, et puis une tête de mort avec deux os dessous. On croit, il n'y a pas de choix. Si Dieu me dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, c'est-à-dire que j'ai un choix. Ça veut dire quoi? J'ai la vie. On propose des mitzvot, servir, travailler. La mort, qu'est-ce qu'elle me propose? Un sourire éclatant, pas un sourire de tête de mort, d'accord? Miss Univers, Christine, Christy. Les cheveux au vent. Waouh! Ça, c'est la mort. Là, il y a un choix. Alors, quelqu'un me dit en moi, tu te crois, ça n'a rien à voir. T'es pas né pour ça. C'est pas la raison de vivre. Il y a une raison de vivre. Puis l'autre côté te dit, arrête avec raison de vivre, raison de vivre. T'as une fille pareille, tu laisses, c'est Baltacherie, ça, c'est interdit de passer à côté. On a deux tendances en nous. Donc, il est clair que Dieu met devant nous des choix, et le choix n'est possible que s'il y a une égalité de pulsion entre le côté négatif et le côté positif. Parce que s'il n'y a pas d'égalité, il n'y a plus de choix. Forcément, tu vas vers la pulsion qui est la plus forte. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Dieu va créer en nous deux parties. Une partie qu'on appelle la partie divine, l'âme. Une partie qu'on appelle la partie animale, qui est tout simplement le corps. Pourquoi animale? Parce qu'elle n'est pas tellement différente de l'animal. Elle fonctionne avec des pulsions. Pulsion de nutrition, pulsion de reproduction, pulsion de conservation d'espèces, pulsion de colère, de jalousie. Et il y a les outils. Toutes les facultés intellectuelles que nous avons, qui peuvent être au service de la pulsion divine ou au service de la pulsion animale. Maintenant, vu que la pulsion animale, elle n'a rien à vendre. Que du flop. Qu'est-ce qu'elle va me vendre? La pulsion animale, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit les honneurs et un boulot. Bien, avec un statut, tu es quelqu'un, de l'argent. L'argent égale deux choses, pouvoir et bonne femme. Ça va ensemble. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent, c'est presque impossible d'avoir beaucoup d'argent et de ne pas glisser dans les bonnes femmes. Presque impossible. Pardon? J'ai pas dit qu'il ne faut pas ça. Mais Qui est au service de qui? On a un corps, il est là, il sert à quelque chose, il laisse, au niveau de la vérité, il est là pour être au service, c'est le véhicule de l'âme. L'âme, c'est une âme. Il faut bien un moyen qu'elle puisse se réaliser. Pour réaliser, il faut des outils, il faut un corps. Donc le corps devient l'outil de l'âme. Mais si maintenant le corps devient une fin en soi, là on est dans l'erreur, parce que le corps disparaît. Pourquoi erreur? Parce que le corps est une chose qui passe. Or nous voulons être éternels, on veut la vraie réalité. J'explique une petite notion qui est celle de vérité. J'ai souvent expliqué cela. Je dis maintenant c'est une tasse. Vrai ou faux? Vrai. Je dis, c'est une Ferrari. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Sans parler maintenant que le mot Ferrari et le mot tasse, ce sont des définitions arbitraires, d'accord? Admettons que on accepte maintenant, dans l'arbitraire des définitions que nous avons, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux que j'ai devant moi une tasse? Il est vrai. Est-ce qu'il est vrai ou il est faux que je demande une Ferrari? Il est faux. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est pas une Pourquoi c'est faux de dire qu'il y a ici une Ferrari? C'est-à-dire, la réalité de l'objet défini ne correspond pas à la définition Ferrari. C'est-à-dire, dire c'est une Ferrari, c'est faux parce que c'est pas réel. Il n'y a pas de Ferrari dans la réalité. Elle ne roule pas, elle n'a pas de moteur, c'est pas une Ferrari, désolé. Dans la réalité, il n'y a pas de Ferrari. Donc, vrai égale réel. Ça, il faut comprendre les gens, c'est... Je sais pas c'est quoi la vérité. La vérité égale réel. Chose de vrai, c'est une chose qui est. Mensonge égale n'est pas irréel. Maintenant, un mensonge qui est irréel n'est même pas mensonge. Je vous dis, messieurs, c'est une Ferrari, vous n'y croyez pas. Il n'a aucune valeur, ce mensonge. Un mensonge a de valeur que si on y croit. Si on lui accorde de la réalité. Une chose qui n'a pas de réalité, à laquelle on n'accorde aucune réalité, n'est pas. Je te dis, je suis le Père Noël. Ça rien. Je te dis, n'importe quoi, hier on m'a mis un PV. Tu peux me croire. Et accorder de la réalité à une chose qui, en fait, n'est pas, parce que j'ai pas eu de PV hier. Ça s'appelle le mensonge. Donner de la réalité à une chose qui n'en a pas. Lorsque le premier homme a péché, je ne vais pas rentrer dans le fin fond du pourquoi, etc., mais en tout cas, la situation est aujourd'hui que il existe une réalité qu'on appelle le mal, qui est donner une réalité à une chose qui n'en a pas. Donc on accorde un peu de réalité à ces choses-là. Un peu. Mais c'est un mensonge. Pourquoi ce n'est pas réel? Ce n'est pas réel. Tu me diras, mais la bonne femme, elle est réelle, je la vois. L'argent, les pessettes, c'est réel. Oui, mais une réalité très très petite, ça veut dire. Je dis maintenant la tasse. Est-ce vrai qu'il y a une tasse ici? Oui. Pourquoi? Parce que dans la réalité... Il y a ici une tasse. Elle est dans la réalité. Il y a une réalité d'être de cette tasse. Cette réalité d'être de cette tasse, elle est pour combien de temps? Une tasse moyenne, pareil, combien de temps elle tient? 3 ans, après elle se casse? 4 ans? 5 ans, tout cassé? Ok, donc cette réalité, elle est, mais elle est limitée. La table, elle a une réalité limitée. Le bâtiment, limité. Nous, limité. L'univers, limité. Tout le monde matériel a une réalité qui est limitée. Et si on la compare à l'infini, autant de temps que durera le monde limité, par rapport à l'infini, il n'a aucune stricte réalité. On se veut dire, prends 1000 ans, prends 10 000 ans, prends 100 milliards d'années par rapport à l'infini. Quelle valeur ça a? Zéro. Donc, par rapport à la réalité qui est, c'est quoi être? Être, c'est avoir une réalité. Qu'est-ce qu'est une réalité? Que ce qui est éternel. La seule chose qui est. Tout le reste n'est pas. Ah, tu me dis, mais il y a quand même un peu. La fille, je la kiffe bien quelques secondes. Oui. À peu près ça. La vie? Demande aux gens qui sont déjà un peu âgés. Dis-moi, comment s'est passée ta vie rapidement? Comme ça, il te dit. L'univers? Donc tout n'est pas. Qu'est-ce qui est? Le seul qui est, c'est celui qui est. L'être suprême, comme son appel. L'éternel en français, en hébreu, Yud Kevav Kev, celui qui était et sera, c'est son nom. On a parlé hier, le nom d'essence de Dieu, il est. Donc dans la vie, j'ai le choix entre ce qui n'est pas et qui semble être, qui a un être qui est très momentané, parce que je lui accorde la réalité, c'est la réalité du mal aujourd'hui, et là une réalité qui est petite, parce qu'on lui a accordé, il y a eu, on a donné du flux de réalité à ce qui n'est pas, c'est le mal, le mensonge. Un mensonge, il est là, il existe, le mensonge, on y croit. Et la réalité qui est éternelle vraiment, Dieu. Mon corps n'est pas sensible à Dieu. Il s'en fout complètement. Mon corps ne saisit ce que le corps saisit, les cinq sens. Je vois, j'entends, je sens, je touche. Dieu, je ne peux pas le saisir par ces moyens-là. Et vu que je suis né maintenant sans perception de Dieu, pour moi, Dieu est une chose qui, à la rigueur, n'existe pas. Je veux bien croire, mes parents me l'ont dit, ok, j'accepte, peut-être, j'y crois, je ne peux pas trop poser la question. En tout cas, c'est dans le domaine assez irréel. Par contre, la réalité tangible, elle est là. Ah, ça, je le vois bien. Quelqu'un me donne un coup de main. Je l'ai senti. Ce qu'en soi, on sait que c'est complètement faux. Alors, je peux expliquer ça un peu après. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une prépondérance beaucoup plus grande au mensonge. Pourquoi? C'est très simple. Vu qu'on veut avoir un libre choix qui soit moitié-moitié. 50-50, exactement. Parce que sinon, il n'y a plus de libre choix. Forcément, si un t'attire plus, tu vas aller vers celui qui t'attire plus. T'as plus de Pour qu'il y ait un libre choix, faut qu'il y ait un choix qui soit exactement. J'ai vu quelqu'un maintenant, il y a quelques minutes, faire un acte extraordinaire. Un héros du peuple d'Israël. Le choix, il se joue à 1 mm. 1 mm. Oui, non, oui, non, oui, hein, c'est pépère comme ça. Il n'y a pas de choix. Quand quelqu'un lui dit ne tue pas. Bon, c'est pas héroïque de ne pas tuer dans un cas normal. Parce que tu n'as pas de choix de tuer et pas tuer. C'est pas ton, je sais pas ton. Il y a des gens chez qui c'est leur lébabis se trouve à ce niveau-là. Il y en a. C'est pas le nôtre d'habitude, d'accord? Mais pas libre choix, c'est quand libre arbitre, c'est quand il y a vraiment une hésitation qui est vraiment à égalité. Maintenant, le mensonge, il a un problème. Il vend de la camelote, il vend rien, il vend du flop, il vend du vide, il vend de la mort. La vérité, elle est forcément gagnante. Elle dit, moi, je te propose Dieu. L'éternité, la seule chose qui est vraiment. Quel poids peut avoir de la camelote, la meilleure camelote du monde par rapport à être et tu n'es pas? Aucun poids. N'est pas. N'est pas. Qu'est-ce qu'il doit faire Dieu pour qu'il y ait égalité? Il va créer un panneau énorme. Que la vérité, elle est perceptible un millionième. Et le mensonge, il y a une campagne, un bourrage de crâne toute la journée. Depuis qu'on est né, on voit que ça. On ne voit, on entend, on ne touche que ce qui n'est pas. Et ce qui est, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Alors au bout d'un moment, on hésite. Une partie de moi me dit, il y a Dieu, il y a la vérité. Et je suis sensible à ça. J'ai une âme, je sens le sens de ma vie. La vérité, aider, aimer. Mais vu que c'est tellement loin, et je suis né dans un monde qui est tout le contraire, un gosse. Il s'est passé quoi, Dieu? On lui en parle peut-être vaguement, mais il n'a pas aucune. Il n'a pas la conception de Dieu comme un adulte peut l'avoir. Un gosse, il est complètement animal. Les gens n'aiment pas qu'on dise ça parce que c'est pas très beau, parce qu'il est très mignon, il est tellement pur, n'est-ce pas? Il n'est pas pur du tout. Enfin, il est pur, oui. Mais il est purement naturel. C'est dangereux, c'est quoi naturel? T'as un gosse qui joue à la petite voiture. Il a 3 ans. Puis un autre à côté qui joue avec une petite voiture plus jolie que la sienne. Qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse, il prend la petite voiture, c'est tout. Comment il mange un gosse, t'as remarqué? Faut regarder un petit gosse. Il a 1 an. Il est comme ça avec tout dans la bouche. Déjà, il a attrapé à l'autre côté, là. Pour pas que ça lui... qu'il n'y ait pas une seconde d'arrêt entre... J'ai fait une fois ici, je peux le refaire. Tous ils sont mis à la fenêtre, toute la yeshiva. Je jouais comment imaginer un type de mon âge qui est resté gosse. D'accord? Je sais plus comment on l'avait fait, d'accord? D'accord, c'est pas pur, c'est un sauvage. Parce qu'il est complètement animal. Pourquoi Dieu nous fait créer dans cette période d'abord animal? Pour qui, le jour où on devient adulte, il y ait une certaine chance de réussite au mal, au mensonge. Sinon, il n'a aucune chance. Si depuis que je suis né, j'ai à égalité la perception de Dieu, la perception du mensonge, qui va choisir le mensonge? Regarde que la vérité, c'est telle. Au bout d'un moment, la Neshama se réveille, mais c'est une puissance extraordinaire, bien que Dieu ne le voit pas. La Neshama, on ne la voit pas, on ne sait pas, tout ça, et ça a l'air absurde. Regarde, aujourd'hui, des dizaines de milliers de juifs, des gens qui reviennent. Des centaines de milliers. Pourquoi? Ils ont dit, mais je veux un sens. L'animal ne cherche jamais un sens. La recherche de sens, la recherche de pourquoi je vis, vers quoi je vais, qui je suis. Ça, un animal se pose jamais la question. Mais on n'est pas animal, on a en nous une autre partie qui est divine. Neshama. Qui éclaire très peu, pas petit, ting, mais il est tellement lumineux, ce petit flux. Que tout le mensonge est balayé. Y en a Midrash qui dit, au début par Vayeshev, qu'il y avait un charbonnier qui était dans son atelier et sont rentrés des chameaux avec des ballots de lin. Des tas de chameaux, des ballots de lin énormes. Il a dit, mais comment on va pouvoir recevoir, emmagasiner, recevoir tellement de ballots de lin, ça prend beaucoup. On peut pas supporter tout ça. Ça, c'était l'exemple. Le sujet de l'exemple, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lorsqu'on a cité tous les Aloufei Edom, tous les rois qui seront descendants de Esav Arasha, Esav le mécréant, il dit, comment, moi, Yaakov, je pourrais résister par rapport à tous ces rois énormes, des chameaux comme ça, avec des ballots qui font beaucoup de place, beaucoup de bruit. On n'est rien, un petit peuple de rien du tout. Un sage lui dit, une étincelle sort de ton soufflet et brûle tout le lin. Ça veut dire, c'est marqué, à la fin des temps, la vérité, elle va brûler tout le mal. Faut pas beaucoup de vérité. Un petit étincelle de vérité, ça enlève tout. Quand tu dis à quelqu'un sincèrement, tu poses la question, quel est le sens de ta vie? Mais très très sincèrement, le vrai sens, sois authentique, sois complètement honnête avec toi-même. Chacun a soif de vie. La seule soif, la seule vie qu'il peut y avoir, vie, être, c'est dans ce qui est, dans ce qui reste, dans l'acte qui va rester. Quand tu donnes à quelqu'un, c'est un acte qui reste. Quand tu prends, ça ne reste pas, c'est ton corps qui a pris. Donc la vérité, elle a un poids énorme. Pour qu'on puisse avoir libre arbitre, Dieu crée dans le côté, on va dire, anti-neshama, le background éducatif, génétique, naturel, le caractère, toutes ces choses-là. Qui sont l'antithèse du Neshama. Pas toujours, mais qui peuvent l'être. Mais il met aussi la pulsion Neshama. Que chaque être humain, juif ou pas, a soif de vérité. Peut avoir soif de vérité. Au moins une fois dans la vie, il se pose la question, pourquoi j'existe? Qui suis-je? Se met hors de lui et dit, quel est le sens de ma vie? Je ne suis pas là rien que pour profiter. Dès lors, réponse à ta question. Bien qu'on ait un background et qu'on soit conditionné, tata, conditionné, oui, c'est une certaine limite. Mais il y a aussi une échama. On a aussi un autre condition, on va dire. On est conditionné par deux axes. L'axe animal, l'axe divin. On a aussi un conditionnement divin qui vient. Même quelqu'un qui est éduqué hors de la Torah, etc., il a la faculté, en tant qu'être humain, la, comment on appelle ça, la sensibilité à la vérité, qui est petite, mais qui est très puissante. Une étincelle qui peut brûler des ballots de lin, des tonnes de ballots de lin, de mensonges. Ça répond à ta question?
Il y a juste un cas dans lequel l'étincelle de l'échama et la présence du mal sont pas toujours évidentes en fait. Et où en fait, dans ce cas-là, on fait appel à la réflexion pour savoir distinguer la partie
Bien sûr.
de vrai du faux. Ce que je veux dire, c'est que par exemple le corps, je sais pas, un exemple, on a besoin de travailler pour pouvoir s'alimenter. Après, effectivement, ce travail, ça peut devenir une obsession. Ou ça peut être effectivement simplement quelque chose qui va nous suffire à manger, etc. Voilà, comment on peut se faire cette distinction de manière complètement.
Très bonne question et très simple réponse. Les deux éléments dont nous parlons maintenant, l'aneshama, on appelle ça le corps, fonctionnent dans leur expression tout à fait différente. Les deux s'expriment en nous. C'est-à-dire qu'on peut être très balancé. Le choix toujours se fait entre. Il y a deux pulsions, mais les pulsions, on peut les reconnaître. Il y a un truc pour les reconnaître. La pulsion neshama, venant de la vérité, elle fonctionne par vrai-faux. La pulsion corps, elle ne sait pas c'est quoi vrai-faux. Elle fonctionne par envie et pas envie. Prends n'importe quel exemple. On va dire à quelqu'un maintenant, quitte ta goya. Quitte ta copine qui est non juive. C'est pour la Torah, il ne faut pas le faire. Lui, il est d'accord, il comprend très bien. La tête, il ne faut pas. On lui fait un argumentaire. Écoute, voilà, tu parles d'un peuple. Un peuple qui est un peuple éternel. Et lorsque tu fais cela, tu arrêtes cette histoire de peuple éternel. Tu quittes ce peuple, c'est dommage, toi la vérité, on peut le prouver. Et par cet acte-là, tu quittes l'éternité du peuple d'Israël. Réponse directe. Oui, mais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. L'année je m'en ai parlé, c'est vrai. Mais quoi? On peut rien dire si c'est vrai. Pourquoi tu dis mais? Mais c'est dur. Mais demain, je vais réfléchir. Vous comprenez? C'est pas facile. Aucun argument rationnel. Que des arguments, entre guillemets arguments, j'ai pas envie, c'est dur, corporel. Le corps fonctionne par, comme un animal, pulsion, de recherche de plaisir et fuite de la souffrance. L'aneshama fonctionne par raison. C'est juste, c'est faux. Si c'est juste, il faut le faire. Si c'est faux, il ne faut pas le faire. Donc, l'exemple que je prends toujours. Le réveil sur le matin à 7 h. Dring! Que dit l'aneshama? Il faut se lever. Que répond le corps? Oui, mais. Oui, il faut se lever. Mais dans 5 minutes. Allez, non, mais j'ai dit oui, il faut se lever maintenant, dit l'aneshama. Oui, il faut se lever maintenant. Mais. J'ai été taroli hier, il y a un mariage, je pourrais mieux étudier si je me repose encore un peu, et puis il fait froid, je veux bien en été, mais pas en hiver. Tout un argumentaire très 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 solide. Preuve en est que rares sont les personnes lorsque ça sonne, ils se lèvent. C'est rare. Parce qu'il y a une partie de temps de débat. Idem dans tous les choix. Tu prends l'exemple du travail. La raison dit, il faut travailler pour se nourrir, c'est normal. Pas besoin d'amoureux d'eau fraîche. Alors, tu te mets à travailler. Et puis après, tu as le corps qui vient, qui dit, ok, on gagne. C'est kiffant, c'est bien. Un peu, un peu. Alors, la tête te dit, ok, oh, mon vieux, et c'est pas, t'es pas venu. Tu sens que tu es en train de vivre ton truc un peu trop fort, là, tu n'es pas venu sur Terre pour ça. C'est pas le but de faire des sous-sous. Il y a d'autres choses sur Terre. Pourquoi ta vie, la Torah, se brancher avec Dieu, ces choses-là? Oui, mais. Non, oui, mais. Je vais travailler mieux que ça, je pourrais mieux le faire après. Non, mais quand même, il faut un minimum. L'autre, mais t'arrêtes de t'as dépassé le minimum déjà. C'est bien qu'on dit après, ça viendra pas. Il y a un débat. Donc, comment définir où est la vérité d'après la raison? Sans le sentiment. Il faut être froid, dur, objectif. Et une fois qu'on a trouvé la solution, sont objectifs, et c'est relativement facile de le faire, comprendre que tous les oui mais qui viennent après, il ne faut pas les écouter. C'est comme ça, et c'est une avalanche. C'est pas ou un petit oui mais comme ça, c'est une avalanche énorme. Une avalanche énorme de peur, c'est des pulsions très puissantes. On voit à quel point c'est pas normal. Des pulsions énormes de choses qui te disent oui mais, oui mais, oui mais. Et les gens, s'ils ne sont pas contents de ce que je dis maintenant, vivent dans le oui mais toute la journée. Et ils sont possédés, parce qu'on parle de l'SRA, ils sont complètement conditionnés. Incapables de sortir maintenant du carcan de ce que leur corps leur dit. L'âme esclave du corps. Alors que l'âme doit être le boss du corps. Le corps veut être le serviteur de l'âme, parce que c'est très bénéficiant pour le corps d'être l'outil par lequel l'âme peut agir sur terre. Tu deviens un outil sacré, un outil de Dieu. Le corps aimerait bien, quelque part, dans la réalité des choses. Mais les règles du jeu sont que Dieu donne au corps le droit d'envoyer des pulsions qui sont fausses. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il vient sur terre et il te tente. Après, il va là où il t'accuse. C'est pas sympa. Le corps, il te tente, mais après, il t'accuse que, quelque part, tu as biaisé le but pour lequel il a été créé. Quelque part, le corps t'accuse, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour servir en tant que serviteur de l'âme. C'est clair? Ok, messieurs. Baruch Adonai, l'homme d'âme.